Oui, c'est un exploitant agricole du Tarn, comme il en existe bien d'autres dans notre région. Face aux mammouths de l'administration, il a, pour sauver sa ferme, monté un cabaret. Rien de moins. Cette fabuleuse histoire fait l'objet du film « Les folies fermières » qui sort demain, 11 mai, au cinéma. Bonjour David Comette.
Bonjour.
Vous êtes cet agriculteur et vous me disiez que vous aviez déjà vu cette fois ce film. Quelle aventure! Alors voir raconter sa propre histoire sur grand écran, quelle impression ça fait?
Ah mais c'est très surprenant, hein, parce que bon, au début, la première fois, c'est vrai que j'ai coulé la larme, hein, comme je l'ai dit, mais chaque fois, là, ça fait 7 fois, et c'est vrai que, bon, après, c'est mon histoire, je m'en lasse jamais, quoi. C'est vraiment une histoire qui est tellement belle, mais autant sur un point de vue personnel que général, j'ai envie de dire, parce que c'est un film dans lequel vraiment tout le monde se ressent à un moment donné, et moi, je trouve ça tout simplement magique, parce que c'est une histoire qui est vraie, qui est sincère, et rien qu'avec ça, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se ressentir.
Alors, parlons justement de cette histoire vraie, hein. Revenons sur ce qui vous a conduit jusqu'à là. Pourquoi avez-vous monté ce cabaret dans votre ferme de Garrigues ?
Mais en fait, si vous voulez, pour faire simple, moi j'étais. Mes parents n'ont jamais voulu que je sois agriculteur. C'est le début du problème, j'ai envie de dire. Même si maintenant c'est plus un problème. En fait, pour eux, l'agriculture était devenue tellement compliquée avec la crise agricole, la crise du lait, en fait tout ce qu'on a connu dans le monde agricole et qu'on connaît encore. Hein. Et en fait, ils m'ont fait faire des études. J'ai été professeur de mécanique au lycée agricole de Honde, dans le nord toulousain, à Grenade, à côté de Grenade. Et ensuite, j'ai été directeur d'exploitation au lycée agricole de Labor-Flammarès.
Donc là, vous étiez à l'abri, finalement.
Ben, tout à fait. Surtout, voilà, directeur d'exploitation d'un lycée, j'avais un salaire confortable, une secrétaire, une comptable, 2 ouvriers agricoles. Et j'ai, en plus, c'est moi qui m'occupais intégralement de la ferme, quoi. C'est une ferme en polyculture élevage, mais dans un lycée agricole.
Et vous avez tout lâché pour vous occuper de la ferme de vos parents, en fait, avec vos parents.
Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un cas de conscience professionnelle. J'enseignais l'agriculture à 300 élèves par an et en parallèle, j'avais mes propres parents qui, eux, étaient en train de vendre la ferme, de vendre le troupeau déjà. Donc, c'est un cas de conscience professionnelle. Je ne pouvais pas continuer à enseigner quelque chose dont ma famille n'était plus en mesure de pouvoir en vivre de cette activité, quoi. Et à ce moment-là, oui, j'ai démissionné pour essayer de reprendre la ferme familiale. Alors, je ne vous cache pas que ça a été très compliqué parce que quand j'ai annoncé à mes parents que je démissionnais d'un poste de fonctionnaire où j'étais vraiment en lycée agricole, pendant 6 mois, ils m'ont plus du tout parlé.
Parce que ils n'ont pas dû vous accueillir à bras ouverts.
Et surtout qu'ils s'étaient sacrifiés pour me payer des études, en fait. Voilà. Ils s'étaient vraiment sacrifiés et pour eux, ils se disaient, voilà, ils avaient affiché le diplôme au-dessus de la cheminée, ils le montraient à toute la famille chaque fois que quelqu'un venait parce que c'était une fierté familiale.
Oui. Bien sûr.
Voilà. Et quand j'ai démissionné, pour eux, c'était devenu la catastrophe.
Alors, si on avance, puisque nous n'avons quand même que 14 minutes, vous avez donc repris cette ferme et vous avez trouvé les mêmes difficultés que celles qu'avaient rencontrées vos parents?
Et alors j'ai changé surtout, j'ai essayé de faire une autre agriculture. J'ai pas fait une agriculture comme on m'a imposé, celle qu'ont fait mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père, c'est-à-dire que de la polyculture élevage. Moi, dès le départ, j'ai commencé à rajouter une nouvelle activité qui était la boutique des producteurs, c'est-à-dire qu'en fait, et une boucherie charcuterie à la ferme, on a transformé nous-mêmes les produits qui ont très bien fonctionné. On faisait les marchés du coin, Lavor, Saint-Sulpice, Saint-Jean, à côté de Toulouse, Albi, et ça a bien fonctionné jusqu'en 2013-2014. On faisait 2 marchés le mercredi, 2 le samedi, 3 le dimanche. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé en 2014-2015 ? Ouverture des supermarchés le dimanche. Et à ce moment-là, j'ai perdu 30% du chiffre d'affaires en 6 mois. Ça a été catastrophique, ça a remis en question tout l'équilibre de la structure. Et à ce moment-là, c'est ma femme qui me dit, écoute David, moi...
Il faut trouver une autre idée.
Il faut trouver une autre idée. Moi, je suis cuisinière de métier et je pense qu'on amène le produit pas assez loin, le produit du terroir, pas assez loin auprès des consommateurs. Plutôt que de continuer à le valoriser comme ça directement, uniquement dans le panier de la ménagère, on va le valoriser dans l'assiette du consommateur. Ceux qui voudront bien manger n'auront qu'à venir à la ferme.
Donc, vous avez monté une forme de restaurant, alors ?
C'est ça. Alors, ça s'appelle une ferme auberge. Parce que la ferme auberge, plus de la moitié des produits que vous mangez proviennent de la ferme. Donc ça a bien fonctionné les premiers jours. Sauf que le bilan au bout d'une année, vous imaginez qu'on est dans un village de 300 habitants, hein, à 25 minutes au-dessus de Toulouse, entre Lavor et Montastruc-la-Conseillère, si vous connaissez.
Oui,
et donc, du coup, pour arriver à faire venir les personnes, on a fait une moyenne de 15 couverts par semaine.
Ah oui, donc ça n'était pas suffisant.
Ah, c'était pas du tout
D'où
suffisant,
votre idée de cabaret, alors, pour essayer d'attirer plus largement.
Voilà.
Alors, racontez-nous cette initiative et puis dites-nous ce qui a marché, puis ce qui a été quand même compliqué.
Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on a essayé dès cet instant-là, en fait, à se répartir le travail. Donc, on s'est dit, nous, les agriculteurs, on va présenter ce qu'on appelle le spectacle dans l'assiette, un repas aux produits du terroir servi par les producteurs en personne.
Oui, parce que vous êtes associé avec d'autres agriculteurs de la région.
Mais oui,
vous
parce qu'on avait
seul.
Déjà la boutique, voilà, on avait déjà la boutique, donc du coup, ça nous a permis de faire, et on n'a pas embauché de serveur. Nous, on a voulu être authentique et chaque producteur faire son produit. Le producteur de vin sert le vin, le producteur de fromage, le fromage. Moi, je fais de la viande, je sers la viande. Et en même temps qu'on le sert, on l'explique. C'est comme si à la Bibliothèque nationale, Proust venait vous dédicacer un livre. C'est tout son savoir-faire qui est remis là, dans une assiette devant nous, par exemple, dans notre cas. Et donc, ce spectacle, ça, c'est le spectacle des producteurs. Et après, on a eu l'idée, justement, de travailler avec des artistes qui, eux, avaient pour mission de présenter le spectacle sur scène. Et en fait, pourquoi le spectacle sur scène? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que chaque fois qu'on faisait une petite animation en plus du repas, eh bien, la salle, au lieu d'être remplie à 15 personnes, est montée à 70 personnes.
Donc là, ça a été succès reconnu.
Dès le départ, parce qu'en fait, au début, le premier spectacle qu'on a fait, c'était un club de country d'un village d'à côté. Après, il y a eu un club de Zumba. Après, il y a eu le sosie de Claude François. Et ça a très, très bien marché. À tel point qu'en fait, à un moment donné, on a le ministère de la Culture qui nous a appelé pour nous dire, écoutez, vous faites trop de représentations. Et en France, si on dépasse les 6 représentations annuelles, on est obligé de passer un examen qui s'appelle une licence de spectacle. Donc je passe cette licence de spectacle.
Ah oui, mais rien ne vous fait peur. Vous avez passé vous-même la licence.
Tout à fait.
Ah oui,
voilà, tout
d'accord.
À fait. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai passé cette licence, Toulouse me la donne, et là, aussi incroyable cela peut-il paraître, Paris me téléphone en me disant qu'en fait, je ne peux pas obtenir cette licence parce que je suis agriculteur et que je dépends du ministère de l'Agriculture.
Ah,
et que si je veux valider cette licence, il faut que je change de ministère et que je passe au ministère de la Culture, parce que c'est-à-dire, grosso modo, changer de métier, quoi. Sauf que moi, je voulais pas changer de métier.
Bien sûr.
Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'il a fallu trouver une équivalence, parce qu'une ferme auberge qui fait des repas à thème, ça n'existe pas au ministère de la Culture. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bah, écoutez, vous, au niveau de ce qui existe, alors ils m'ont demandé si j'étais un zénith, si j'étais un bar musical, si j'étais un auditorium.
Et vous avez trouvé finalement la case cabaret, c'était ce qui correspondait le mieux à votre activité.
Voilà, et à partir de ce jour-là, maintenant j'ai un statut qui fait qu'au ministère de l'Agriculture, je suis toujours une ferme auberge qui fait des repas à thème, et au ministère de la Culture, je suis assimilé cabaret pour avoir le droit donc de payer la SACEM et ensuite avoir le droit d'embaucher les artistes. Et donc c'est juste assimilé cabaret, et c'est ce jour-là qu'est né le premier cabaret à la ferme de France, parce qu'il y a une personne au ministère de la Culture qui n'a pas trouvé la bonne case pour me mettre dedans.
Alors, cette aventure de cabaret a fait l'objet d'un documentaire et puis aussi d'un livre qui s'appelle tout simplement Les Folies Fermières, comme le nom de votre cabaret, un livre paru aux éditions du Rocher. Demain sort le film éponyme. Comment avez-vous participé à ce projet d'envergure?
Eh bien, le livre, déjà, il faut savoir qu'il s'est vendu partout en France, très très bien, même à l'étranger. Et ensuite, en tout, on a eu 8 propositions d'adaptation cinématographique, ce qui est quand même pas des moindres. Donc, nous, on a fait le choix de Jean-Pierre Améris, parce que c'est quelqu'un qui est venu sur site, qui a passé une journée avec nous, qui s'est immergé dans notre folie pendant le temps d'une journée, et qui, à la fin, nous a dit, vous avez un vrai projet, c'est vraiment un sujet de cinéma. Et en fait, on s'est dit au début, parce que ça fait peur, hein, faire du cinéma quand on est agriculteur, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc?
Oui, mais vous n'êtes pas acteur dans ce film.
Du tout, du tout. Donc, par contre, je suis consultant, c'est-à-dire que je peux donner mon point de vue sur le scénario, sur des petits trucs à corriger s'il y avait besoin. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que lui, ce qu'il a vu dans le film, c'est le fait qu'on ait essayé de marier deux professions qui n'étaient jamais censées se rencontrer, des artistes avec des agriculteurs, voilà, et tout ça pour un objectif commun, essayer de sauver le dernier élevage de notre commune rurale de Garrigues. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes, au début, quand ils sont venus, ça a été très compliqué. Les premiers avec qui on a travaillé, ils étaient sur la région toulousaine. On est allé les voir à la fin d'une prestation qu'ils avaient fait, c'était de l'orchestre, il y avait du cabaret, tout ça. On leur a dit, oui, on a monté un cabaret à la ferme, est-ce que vous voulez venir? Ils pensaient qu'on avait fait un groupe d'agriculteurs pour trouver des femmes, sans faire référence à l'émission, voilà, l'amour est dans le pré. Donc, on leur a dit non, pas du tout, nous, on veut vraiment que vous veniez travailler pour votre talent. Et à partir de ce jour-là, vraiment, la magie a opéré. Et c'est ce qu'on revoit un petit peu dans le film, c'est-à-dire, c'est vraiment la rencontre de deux mondes qui, à la base, je ne dis pas qu'ils sont incompatibles, mais avaient très peu de chances de se rencontrer dans la vraie vie.
Peu de points communs. Alors, c'est Alban Ivanov qui joue votre personnage. Vous l'avez forcément rencontré. Est-ce qu'il y a une scène qui reflète particulièrement votre métier, que vous gardez particulièrement en mémoire, qui vous a touché?
Bon, je veux pas spoiler le film, mais si, il y a une scène que j'appelle moi la scène qui est mythique, c'est la scène du vélage. C'est-à-dire que dans le film, en fait, à un moment donné, il y a David avec la chorégraphe, justement, qui, elle, s'occupe de la partie artistique, et qui sont tous les deux dans les tables. Donc, elle est là avec ses plumes, enfin, avec ses...
Ah oui, en tenue de cabaret.
En tenue de cabaret, lui il est là avec sa, enfin habillé en agriculteur, et ils sont tous les deux devant cette vache, et ils mettent tous les deux leurs mains là, parce que la vache doit mettre un petit veau au monde, elle va pas tarder à véler, donc David il se prépare pour le vélage, et elle vient justement pour essayer de voir ce qui se passe. Parce
avec ses hauts talons et ses barésilles.
Voilà, pour lui faire sentir le bébé, le petit veau dans le ventre. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment la fusion des deux mains qui sont une sur l'autre. Il y a une image qui est magnifique. Cette fusion des énergies, c'est-à-dire de l'agriculteur et de l'artiste, qui ensemble vont donner vie à ce petit veau. Et ça, c'est toute la métaphore du film. C'est-à-dire que la rencontre de ces deux mondes permet de faire renaître la ferme et de la faire revivre. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a toute la symbolique du film. C'est-à-dire le fait de travailler ensemble, même si on vient d'horizons différents, et bien quand on a un objectif commun et qu'on est passionné par ce qu'on fait, parce que autant les artistes que les agriculteurs, c'est pas un métier, c'est une vocation, et bien on s'aperçoit que les résultats au final ils sont extraordinaires, parce que nous aujourd'hui on peut tout simplement dire que c'est grâce aux artistes qu'on a réussi à sauver le dernier élevage de la commune. Voilà, c'est quand même pas des moindres, surtout parce que l'administration française, même au bout de 15 ans, elle a toujours pas trouvé la case pour nous rentrer dedans.
Alors dites-moi, David Comette, les difficultés n'ont pas pour autant disparu pour l'exploitation de votre ferme. Voilà, vous disiez, vous avez sauvé votre ferme, mais est-ce que vous pourriez dire que vraiment toute cette aventure, ça a porté du fruit et jusqu'à ce film qui sort demain ?
Voilà, alors il faut s'imaginer qu'en fait l'équilibre économique de la ferme, les folies fermières, c'est A, B, C. A comme agriculture, B comme boutique des producteurs et C comme cabaret. Mais financièrement parlant, c'est grâce à la boutique et au cabaret qu'on renfloue financièrement le manque à gagner de la partie agricole. Après, c'est pour ça que c'est un schéma où c'est que moi j'ai fait le choix de tout donner pour sauver une ferme, c'était l'objectif de base. Ça, aujourd'hui on est en phase d'y arriver, mais au niveau de l'équilibre économique, la partie agricole reste déficitaire. C'est pour ça que ce schéma-là de cabaret à la ferme, il fonctionne dans mon cas figure, parce que voilà, on a essayé de trouver cet équilibre-là, mais ça ne peut pas être transposable, par exemple, partout en France. On ne va pas créer des cabarets partout en France pour sauver des fermes, c'est pas ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que plus le producteur se rapprochera du consommateur, moins il y aura d'intermédiaires, et plus on a de chances de sauver des exploitations agricoles et surtout des vies. Parce qu'il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, on a quand même un peu plus d'un suicide d'agriculteurs par jour, et 27 fermes qui n'ont pas de repreneurs par jour. Et ça, moi, je trouve que c'est tout simplement dramatique. Donc moi, c'est pour ça que j'appelle ça le film de l'espoir, le film rebond qui va permettre aux agriculteurs justement de pouvoir s'inspirer d'une histoire vraie pour essayer de construire leur projet et sortir de cette crise qu'on vit depuis des années maintenant.
Voilà, un film rebond, un film qui donne l'espérance et qui donne vraiment foi en l'avenir. Merci beaucoup David Comette de nous avoir accordé cet entretien et bravo pour cette belle aventure. Merci. Ce film Les Folies Fermières du réalisateur Jean-Pierre Améris à retrouver dès demain en salle.